Je suis heureuse de vous apporter ce message hors série aujourd'hui. Qui d'entre vous a déjà pris l'avion? Levez la main ceux qui ont déjà pris l'avion, quand même. Ah, oh, une grande majorité. Qui parmi ceux qui ont pris l'avion avait déjà expérimenté le décalage horaire parce que vous avez fait un grand vol? Pas très agréable, le décalage horaire, si vous l'avez jamais vécu, c'est des ballonnements, de l'insomnie, de l'inconfort intérieur, on pourrait dire. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était cet automne, et j'ai réalisé à quel point notre corps humain n'était pas fait pour aller aussi vite qu'un avion, OK? À 800 km, si je pense, non, 800 km/h environ. Notre corps n'est pas fait pour voyager à une grande vitesse et changer aussi de fuseau horaire, OK? Aussi rapidement que ça. Certains d'entre vous avaient peut-être écouté le film qui est nominé d'ailleurs aux Oscars, Maverick. C'est la reprise, le remake, on pourrait dire, de Top Gun des années 80 avec notre Tom Cruise national. Et ça se passe dans une école d'aviation de l'armée américaine. Les élèves pilotent des avions non pas supersoniques, mais hypersoniques. OK? Donc ça veut dire hyper plus que la vitesse du son. OK? Donc très, 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 très vite. Et pour une des manœuvres qu'ils doivent faire, l'enjeu ici, c'est de ne pas tomber sur la connaissance. OK? C'est de ne pas s'évanouir. On s'entend? Pas très rassurant pour un pilote d'avion, vous êtes d'accord avec moi, mais imaginez, le corps est tellement pas fait pour aller aussi vite qu'il dit « OK, moi j'abandonne, salut, bye, ciao, je m'en vais moi ». C'est vraiment fou, on n'est pas fait pour aller aussi vite. Mais pourtant, quand je vois le monde aller, que j'observe notre mode de vie, je ne peux que constater à quel point les gens vont vite, à quel point ça n'arrête jamais de s'activer, à quel point on cherche à aller toujours de plus en plus vite. Un exemple banal, OK, là, je vais avoir besoin de votre honnêteté. On est dans une église en plus, donc vous devez être honnête partout, mais d'autant plus maintenant pour cette question. Qui, en faisant le trajet pour se rendre jusqu'ici, a roulé à chaque seconde de son trajet à la limite de vitesse ou en dessous? Ok. Très peu. En tout cas, il y a plus de monde. Il y a plus de monde qui ont pris l'avion, qui ont roulé à la bonne vitesse réglementaire. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde va plus vite que la vitesse permise, parce qu'on cherche toujours à aller plus vite. Être plus productif, plus efficace, faire plus d'argent, sortir plus, écouter plus de films, lire plus de livres, avoir plus d'amis. Plus, toujours plus vite. Laissez-moi vous raconter une petite histoire d'un explorateur du 19e siècle qui avait embauché un groupe de villageois africains et il faisait ce voyage-là pour cartographier un territoire de l'Afrique qui n'était pas encore cartographié. Et les trois premiers jours, ça se passe super bien. Ils vont même plus vite que leur échéancier, en fait. Donc, ils atteignent les territoires plus rapidement que ce qu'ils avaient prévu. Et là, l'explorateur, il est vraiment content, très heureux de ça. Mais le quatrième jour, c'est là que ça ne lui a pas plu. En sortant de sa tente, il voit que personne ne bougeait. OK? Son équipe, c'était une équipe qui était formée des villageois africains. Et ils lui ont dit « Aujourd'hui, je suis désolée, mais on ne prendra pas la route aujourd'hui. » Et quand l'explorateur leur a demandé pourquoi, il s'est fait répondre ceci. « S'étant déjà déplacés à une trop grande vitesse, ils avaient décidé qu'il était temps de s'arrêter pour permettre à leur âme de rattraper leur corps. » Quelle belle expression pour exprimer notre besoin de se reposer. Et ça, c'était au 19e siècle, OK, pour un voyage qui s'est fait à pied. Vous êtes d'accord que le monde a pas mal changé. Imaginez, de nos jours, avec la vitesse avec laquelle on vit, comment ce serait insupportable pour eux. Alors que la technologie était censée faire en sorte qu'on travaille moins parce que les machines allaient travailler à notre place, il y a une étude qui montre que les Américains travaillent 4 semaines de plus en moyenne qu'en 1979. 4 semaines par année. Ouais, c'était pas clair. Hein? 4 semaines par année, c'est énorme. Imaginez la soirée d'un Charlevoisien en 1936, au mois de février, OK, quand, ça c'était quand les premiers seigneurs ont pris les terres. Ça devait pas être très, très productif en soirée, OK? Quand le soleil se couchait, la maison pas chauffée, la petite chandelle, même là, ça prenait quand même des sous pour avoir des chandelles, les éclairer. Ça devait pas veiller tard. OK? On s'entend? Mais aujourd'hui, la technologie fait en sorte que nous pouvons travailler de la maison. Il y a, vraiment du positif à ça. Mais la limite entre le travail et le reste de ta vie, elle commence à devenir de plus en plus floue. Nous pouvons être joignables 24 heures sur 24. Nous pouvons avoir de la lumière, de l'électricité jusqu'à 2 heures du matin pour répondre à nos courriels et écouter Netflix. OK? Selon une vaste étude de l'organisation Recherche en santé mentale menée à la fin de 2021, pas moins, écoutez ça, pas moins de 41% des jeunes Canadiens de 18 à 34 ans disent souffrir d'épuisement professionnel. À quel point? C'est énorme, c'est presque un jeune sur deux. Et 57% des Canadiens disent avoir déjà souffert d'épuisement professionnel. C'est plus que la moitié des Canadiens. Eh bien, à toi qui es fatigué, Jésus te dit, viens à moi. Le titre de mon message aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est pour vous qui êtes fatigué. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Nous avons besoin, plus qu'à une toute autre époque, de trouver le vrai repos auprès de Jésus, de permettre à nos âmes de rattraper notre corps, comme j'ai dit avec l'expression tout à l'heure. Nous allons regarder à l'exemple de Jésus et à son mode de vie pour nous inspirer dans ce domaine spécifique. Nous allons voir que Jésus pratiquait le sabbat, mais pas comme les gens de son époque. Et qu'il avait un rythme de vie équilibré, qu'il savait ralentir et qu'il savait aussi s'arrêter complètement. Prions ensemble pour que l'Esprit de Dieu nous parle. Seigneur, nous voulons venir à toi, Seigneur, aujourd'hui pour que tu parles à nos cœurs, à nos esprits. Seigneur, je prie pour chaque âme qui est fatiguée aujourd'hui, qu'on puisse trouver, entrer dans ton repos aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses par ton esprit nous fortifier, nous vivifier et qu'on reparte pas aujourd'hui de la même manière qu'on est rentré ici dans ce lieu, Seigneur. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat tire son origine dans le récit de la création. Le récit dans la Genèse nous dit que Dieu a créé la terre et les êtres vivants en 6 jours, mais voici ce qui s'est passé le 7e jour. On lit ça dans Genèse 2, 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Dès le début de la création, Dieu a instauré un rythme de travail-repos. Et c'est une des raisons pour laquelle Dieu va inclure le sabbat dans les 10 commandements. Peut-être même certains, vous ne saviez même pas que le sabbat était dans les 10 commandements. On va lire ensemble les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse dans le livre de l'Exode 20, 3 à 17. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » C'est le passage sur le sabbat qui va apparaître dans quelques secondes. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi, et là on arrive à notre commandement, de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel, donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que c'est commandé? C'est lié au récit de la création. Il a fait l'Éternel le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Et là, ça continue. Honore ton père et ta mère. Tu ne connaîtras pas de meute. de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ou quoi que ce soit d'autre. Voyez-vous à quel point le sabbat prend une grande place dans les commandements de Dieu? Sache aussi que si tu as pris une année sabbatique après ton cégep, parce qu'il y en a qui ont fait ça, c'est comme le classique, là, après ton cégep, tu pars en voyage à l'autre bout du monde, eh bien, c'est un principe qui vient de Dieu. OK? Peut-être que tu ne savais pas, mais ça vient de Dieu parce que Dieu avait ordonné qu'à chaque 7 ans, le peuple n'aurait pas le droit pendant 1 an de faire de l'agriculture. La terre serait en jachère. C'est un terme qu'on emploie dans l'agriculture. Et ce qui m'éblouit, c'est qu'aujourd'hui, la science constate l'importance de ce principe établi par Dieu dans sa création. Les données scientifiques nous montrent que cette pratique permet à la terre, au sol, de se reconstruire, de restaurer leur fertilité, mais également aussi de limiter la surproduction. Elle dit aussi que de supprimer la jachère, ce serait un désastre pour la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous nous fatiguons nous-mêmes, nous fatiguons notre planète. Et la situation actuelle en santé mentale et en environnement nous montre les conséquences d'aller à l'encontre du rythme que Dieu a établi depuis la création du monde. L'année sabbatique était également une année où les dettes étaient effacées. Oh, est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça? Avoir toutes ces dettes effacées, la carte de crédit qui augmente après Noël? Ben non, c'est fini. C'était souvent considéré comme un temps de réflexion et de contemplation spirituelle. Les rabbins enseignaient que les Juifs devaient profiter de cette année pour étudier la Torah, approfondir leur relation avec Dieu. Le sabbat était synonyme de repos, de libération du fardeau financier, de la charge de travail et un synonyme de proximité et de dépendance avec Dieu. Quel beau principe! Moi, un Dieu qui m'ordonne de me reposer une année aux 7 ans et un jour par semaine au moins, là, moi, je dis que c'est un bon Dieu. Amen! Le sabbat était tellement important à l'époque que même dans Exode 31, 13 à 18, Dieu va rappeler, c'est même après avoir parlé des 10 commandements, Dieu va rappeler et détailler ce commandement encore plus. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations. C'est gros, là. Un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint ou comme un peuple à part. Vous respecterez le sabbat car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. Carrément, c'est vraiment extrême. Oui, toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant au fil des générations comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et le 7e jour, il s'est arrêté et s'est reposé. Et là, c'est lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, les tables des 10 commandements, tables de pierre écrites du doigt de Dieu, avec justement l'inscription de dire « pratiquez le sabbat ». En d'autres termes, on niaise pas avec le sabbat. C'est ce que Dieu voulait que les Israélites comprennent. Et j'ai été bouche bée en faisant mes recherches cette semaine sur le sujet. C'est pas un sujet nécessairement dont on parle souvent dans l'Église, non? Pas. Mais j'ai été justement bouche bée parce que pour moi, le repos sabbatique, c'était quand même une évidence, ou en tout cas, je pense qu'on commence à en parler de plus en plus, mais je pouvais même pas m'imaginer que j'aurais à défendre bibliquement ce commandement. J'ai été surprise de certains manques de nuances de la part de certains auteurs. En résumé, il existe généralement 3 positions par rapport au sabbat. Premièrement, c'est ceux qui croient que le sabbat doit être observé un jour précis, donc c'est-à-dire le dimanche, pour toutes sortes de raisons, comme en disant que avant c'était le peuple juif pratiquait le sabbat le samedi, mais là maintenant le peuple chrétien le pratique maintenant le dimanche et on appelle ça aujourd'hui le sabbat chrétien. Il y a le deuxième groupe qui croit que le sabbat doit être observé, mais que la journée choisie n'a pas d'importance nécessairement. Ça peut être le dimanche, mais ça peut ne pas être le dimanche aussi. Et finalement, il y a un troisième groupe qui croit que le sabbat n'a pas à être observé, qu'il n'y a aucune exhortation biblique à pratiquer le sabbat en tant que chrétien. Et c'est l'opinion d'un pasteur, commentateur biblique américain qui est vraiment connu, et il va dire, je cite, « Le commandement exigeant l'observance du jour du sabbat est le seul des 10 commandements que le Nouveau Testament n'impose pas aux chrétiens. Les croyants n'ont plus la moindre raison d'observer le septième jour de la semaine ou tout autre jour particulier. » Pardon. Hein? Un Américain qui travaille toujours. Oui, je trouve ça quand même gros qu'on puisse dire que bon, il y a un des commandements qui est plus à pratiquer. Donc, c'est quand même assez lourd de dire ça. Et il me semble aussi que juste d'être fatigué après une journée de travail, ça constitue quand même une bonne raison pour se reposer. Je sais pas pour vous, mais je veux juste faire une petite parenthèse pastorale ici avant d'aller plus loin. Ça sera pas très long, mais je veux pas paraître négative ou méprisante, mais Dieu. Devant cette immensité de dire qu'on peut supprimer un des 10 commandements, je me dois de dire attention, OK? Et je fais cette parenthèse parce que c'est une personne qui est vraiment influente, qui a cette opinion-là, et très influente parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a écrit une Bible avec des commentaires, et plusieurs d'entre vous, d'entre nous en ont une même à la maison. Donc, c'est ça, juste faire attention. Juste souligner l'importance de développer un esprit critique et de discernement pour discerner peut-être les manques de nuances, d'objectivité aussi de l'auteur, pour comprendre aussi l'arrière-plan théologique des auteurs que vous lisez, de comprendre son paradigme, d'être capable de séparer l'opinion personnelle d'une interprétation qui ne fait pas de sens avec l'entièreté de la Bible, avec l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est pas aussi parce que c'est sur Internet ou que c'est populaire que c'est nécessairement la meilleure position. OK? Donc, fin de la parenthèse. Voilà. As-tu l'impression de toujours courir ou encore de ne jamais avoir assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que tu as à faire? Ça nous arrive, hein, je pense. Et dans cette société où la performance est encouragée et valorisée, et parfois même dans l'église ou avec ce genre d'opinion-là, tu sens peut-être que ton besoin de repos n'est pas légitime. Mais voici ce que dit Jésus à celui qui est fatigué. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. Quelques observations sur ce verset. Ici, il serait correct de comprendre que Jésus veut nous donner du repos face au poids de la vie, mais en lisant le texte attentivement, on se rend compte aussi que Jésus va encore plus loin. Jésus parle d'un joug et certains traduisent de mes exigences. Donc, acceptez mes exigences. Jésus parle aussi, vous voyez dans ce passage-là, de se laisser instruire. Ce passage, en fait directement référence au poids de la loi que les religieux mettaient sur les gens. En Matthieu 23, 4, Jésus va dire, il lie, OK, comme le verbe lier, il lie des fardeaux pesants, en parlant des religieux de l'époque, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Qu'à l'époque, les pharisiens, une branche plutôt extrémiste juive de l'époque, ils utilisaient un recueil de lois qui pour eux faisait autorité même autant que la loi de Dieu. Alors, si tu violais une de ces lois qu'eux-mêmes avaient inventées, bien pour eux, tu violais la loi de Dieu. Et cette loi-là détaille une quarantaine d'activités qui sont interdites le jour du sabbat. Et pour vous donner une idée de l'intensité là, de ce que c'était, là, tu n'avais pas le droit de défaire un nœud. OK? Bon, on s'entend que c'est intense. D'écrire ou d'effacer plus de 2 signes ou lettres. D'allumer ou d'éteindre un feu. OK? Donc, le sabbat, qui était censé être une bénédiction et apporter le repos, bien, les scribes et les pharisiens, eux, l'ont transformé en fardeau. Et aussi, quand je lisais ce passage, je me suis souvent posé la question à savoir depuis quand un joug, c'est agréable. Tu sais, Jésus nous propose de prendre un joug. OK, bon, c'est correct. Au moins, il dit qu'il est léger, mais sais, c'est, il me semble, j'aimerais d'autres choses de la part de Jésus qu'un joug. Comme un animal qui laboure un champ. L'image ne fonctionne pas ici quand on pense à un joug animal comme on voit sur l'écran. Qui est utilisé pour que des animaux labourent un champ. Mais par contre, si on regarde ce que c'est un joug pour un être humain, c'est un outil en fait qui te permet d'équilibrer et de répartir la charge sur tes épaules. C'est ça en fait un joug humain, c'est de ça que Jésus parle ici. Donc c'est pas quelque chose de négatif, c'est un outil pour t'aider à porter le poids, et c'est ce que Jésus veut nous apporter. Non seulement il veut nous aider à porter la charge, mais il dit aussi que sa charge, elle est légère. En d'autres termes, Jésus a tout fait pour nous en vivant une vie parfaite à notre place. En payant le prix de nos fautes à la croix, il a porté le poids de nos péchés. Il a porté notre fardeau. Il devient notre joug qui nous aide à supporter la charge de la marche chrétienne et de la vie. Mais ce lourd fardeau est une charge. Ce fardeau, il n'est pas lourd, il est léger. C'est une charge légère qui amène le véritable repos à celui qui est fatigué. Voici de quelle façon Jésus a allégé la charge par rapport au sabbat. On va continuer de lire le reste du texte parce que ce passage-là qu'on vient de lire, là, « Venez à moi, vous tous qui vous sentez chargés, venez à moi pour prendre du repos. » C'est la fin du chapitre 11, mais le début du chapitre 12 dans Matthieu, ça nous parle du sabbat. Ça nous parle de deux exemples où Jésus parlait du sabbat. Donc, ce n'est pas un hasard que Jésus nous parle du repos et après, il nous parle de comment est-ce que lui, il a vécu le sabbat. On est dans Matthieu, chapitre 12. « À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Imaginez, ils ont pris des grains pour les manger parce qu'ils avaient faim et ça, c'était considéré comme du travail. Donc, ce n'était pas accepté pour eux. Imaginez à quel point ça ne fait aucun sens. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David? » Jésus parle d'un exemple dans l'Ancien Testament, okay, qui s'est passé avec le roi David. « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés qui ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Pourtant, ils en ont mangé. » Et là, il donne un autre exemple. « N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables parce qu'ils allaient préparer des pains? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Le Fils de l'homme, ici, c'est un titre qui est attribué à Jésus. Donc, Jésus parle de lui-même. Il dit « Je suis le Seigneur du sabbat ». Jésus donne deux exemples donc où la loi de l'Ancien Testament a été... Il donne deux exemples où la loi a été transgressée. Ah, Jésus, il est tellement hot! C'est fou! Et il veut qu'on en prenne exemple parce qu'ils ont été interprétés d'une manière souple en fonction d'une circonstance qui était pertinente. Et ça continue au verset 9. « Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? » Donc, Jésus allait dans une synagogue, il enseignait le jour du sabbat et aussi il faisait une guérison. « C'est afin de pouvoir l'accuser. » Il leur répondit, « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là? » Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Jésus explique que le bien-être et la guérison d'un homme sont plus importantes que le respect rigide de la loi. En résumé, ce passage montre que Jésus remet en question l'interprétation stricte de la loi juive par les pharisiens, en soulignant l'importance de la compassion, de la miséricorde, de la justice pour les êtres humains, plutôt que se concentrer sur des règles strictes et des interdits. Jésus affirme aussi du même coup sa propre autorité en tant qu'interprète de la loi. Et c'est pour ça qu'il va dire qu'il est lui-même le Seigneur du sabbat. Je crois qu'on sous-estime trop souvent à quel point l'Ancien Testament était une question de principe, de cœur, d'amour. Depuis toujours, depuis le début, Dieu, ce qu'il recherche, c'est la bonté au-delà des sacrifices, le cœur au-delà des règles. La foi, la confiance. Abraham a été sauvé par sa foi et non par son obéissance. La confiance et l'amour de Dieu au-delà de la loi. Dans le passage parallèle dans l'évangile de Marc, voici aussi ce que dit Jésus dans Marc 2, 27-28. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Le sabbat est un don de Dieu. Il a été fait pour l'homme. Il est bon pour l'homme. Mais quand c'est l'homme qui doit se plier aux exigences du sabbat et s'alourdir sur le poids du fardeau des règlements, quand le sabbat prend tellement d'importance qu'il devient une idole, c'est là que ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que Jésus veut dénoncer auprès des pharisiens. À l'époque, ils avaient besoin de se rappeler que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Mais aujourd'hui, dans notre société où le travail, l'activisme et la productivité sont des idoles, nous devons nous rappeler que le sabbat a été fait pour l'homme. Que le sabbat est un don de Dieu pour notre bien et pour sa gloire. Le théologien Eugène Michaud a écrit « Qu'obéir à la lettre d'une loi en en violant l'esprit, c'est sortir de la liberté pour tomber dans l'esclavage. » Et c'est ce qu'ont fait les pharisiens. La bonne nouvelle pour les gens de l'époque et pour nous aujourd'hui, c'est que la loi de l'Esprit-Saint en Jésus-Christ nous permet de comprendre l'esprit de la loi, donc les principes que Jésus veut nous enseigner derrière les commandements. Jésus aussi a dit que la compréhension du sabbat devait dépasser celle des pharisiens. Jésus ne conçoit pas le sabbat de façon stricte, mais il élargit le sabbat. Il nous offre un plus grand repos que ce que les pharisiens pouvaient imaginer. Comme on peut voir à l'écran, Jésus nous offre un repos pour l'éternité, mais également un repos pour aujourd'hui. Et c'est les deux éléments que je veux développer avec vous. Aujourd'hui, Jésus vient élargir notre vision du repos sabbatique. Hébreux 4:3 nous dit « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Colossiens 2:17 nous dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. » Mais la réalité est en Christ. Voici ce avec quoi je suis d'accord concernant les propos de notre mystérieux commentateur de tout à l'heure. Il va dire que Jésus est lui-même le repos du sabbat. Le sabbat parfait de Dieu et la source de la véritable sainteté. En d'autres termes, Jésus est notre repos. Jésus est celui qui promet à chaque être humain qui souhaite le suivre, le repos pour son âme, le salut et la vie éternelle. En ce sens où Jésus a tout accompli à la loi, à la croix, et par sa résurrection, il nous fait vivre avec lui. À toi qui es fatigué, peut-être pas nécessairement physiquement ou émotionnellement, mais à toi qui entends ton âme soupirer après quelque chose de plus grand, à toi qui s'épuise à chercher un sens à la vie et à ce monde, je t'annonce aujourd'hui que c'est Jésus, le repos, que tu cherches. J'annonce aussi que toutes les règles sabbatiques de l'Ancien et du Nouveau Testament illustrent le repos final et éternel des enfants de Dieu, le temps où Jésus va revenir sur terre pour libérer son peuple, établir son royaume divin, vivre une vie d'amour, de joie, d'harmonie, de repos pour l'éternité. Waouh, c'est un beau programme. Vacances tout inclus avec notre Dieu, un royaume parfait où nous allons pouvoir nous reposer, profiter des bienfaits de Dieu pour toujours, pour l'éternité. C'est incroyable, inimaginable même. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Nous n'avons pas besoin d'attendre le ciel pour nous reposer. Nous pouvons le faire dès aujourd'hui. Nous devons le faire dès aujourd'hui, conformément à l'exemple de Jésus. Et voici donc la suite du raisonnement avec lequel je ne suis pas d'accord. Comme Jésus est lui-même le repos du sabbat, amen, le sabbat parfait de Dieu est la source de la véritable sainteté, les croyants n'ont plus la moindre raison d'observer le septième jour de la semaine ou tout autre jour particulier, j'aimerais dire. Au contraire, nous sommes appelés à vivre dès aujourd'hui conformément aux règles du royaume parce que Jésus nous a annoncé un plus grand repos, non seulement pour la vie éternelle, mais aussi pour aujourd'hui. Et c'est exactement ce que nous disait Pasteur Julien la semaine dernière. Le salut en Jésus-Christ n'est pas seulement un billet pour le ciel, mais une force rédemptrice et restauratrice pour nos vies d'aujourd'hui. Le salut est tellement plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Le salut est une œuvre de restauration de la terre, une œuvre de restauration des relations, de notre quotidien, une œuvre où chacun d'entre nous pouvons participer dès maintenant. Je suis de ceux qui croient que le sabbat doit être pratiqué aujourd'hui parce que Dieu a créé ce rythme, on peut pas le nier, dans la nature et pour l'être humain, mais qu'on doit le faire selon des principes élargis et non d'une façon stricte, et c'est ce que je crois que Jésus est venu évidemment nous enseigner. Comment vivre le sabbat aujourd'hui, le repos sabbatique? J'aimerais vous suggérer deux choses conformément à l'exemple de Jésus. Le premier principe pour vivre le sabbat aujourd'hui, c'est de ralentir. Le repos doit être envisagé comme un mode de vie de paix et de sérénité. À quel rythme est-ce que tu t'imagines que Jésus allait? Okay? Quand tu t'imagines Jésus, est-ce que tu pourrais penser qu'il est toujours à la course? Pressé, nerveux, stressé, toujours sur le point de devoir partir, toujours préoccupé par autre chose, qu'il n'y a pas de temps pour les gens autour de lui, qu'il ne peut jamais être dérangé parce qu'il a trop à faire. Est-ce que tu t'imagines Jésus de cette façon-là? Mais non, hein? Mais on prend pas souvent le temps de s'imaginer Jésus dans ce genre de situation, mais non, vous lirez les évangiles pour le découvrir, il s'est fait déranger tellement de fois, il s'est fait presser par toutes sortes de foules, quand il se rendait à un endroit pour aller guérir quelqu'un, il se faisait déranger, il prenait le temps de guérir quelqu'un d'autre en route, etc., etc. Pour vivre le sabbat au quotidien, pour briller et faire une différence dans ce monde pressé, pour faire le bien autour de nous, pour apporter le calme, le repos, la paix dans notre monde, ça prend du temps. Ça prend de la marge pour être dérangé, de la disponibilité. Être trop occupé, OK, devrait pas être perçu comme une qualité et quelque chose qui fait en sorte qu'on a un beau statut d'importance, mais pourtant, on dirait que c'est un peu ça qui se passe de nos jours. Les gens toujours pressés n'ont pas le temps de profiter. Ils n'ont pas le temps de vivre dans la reconnaissance, de vivre le moment présent. L'amour et la compassion, ça prend du temps. Ça prend du temps. Comment ralentir alors pour avoir un mode de vie empreint de repos? Voici une image pour vous illustrer un peu et vous aider à comprendre. Imagine-toi en voiture. Quand tu ralentis ta vitesse, c'est souvent parce que, premièrement, tu regardes à combien tu roules et que, deuxièmement, tu te rappelles de la limite où tu vois le panneau ou tu te rappelles de la limite de vitesse puis tu dis « Ah! Oh! Attention! OK! Ma vitesse ne correspond pas avec la limite, donc je vais ralentir. » Et le fait de réaliser que ça te fait ralentir. Mais c'est la même chose pour ralentir ton rythme de vie. Tu dois prendre conscience, premièrement, de ta vitesse. Et deuxièmement, de ta limite. Durant ces deux étapes, tu vas vraiment avoir besoin de l'esprit aussi pour te diriger, vraiment. C'est lui qui va... c'est lui la loi de l'esprit. Donc, je vous donne des principes ce matin, mais justement, c'est l'esprit qui va vous diriger dans chacune des applications personnelles. Par exemple, premièrement, prends conscience de toutes tes responsabilités, des heures que tu travailles, de tes priorités, de ta disponibilité pour tes proches, de l'état de ta santé mentale et physique. À combien tu roules? À combien tu roules? Pose-toi cette question-là. Et si tu roules trop vite, ralentis pour rouler en dessous de la limite. prends conscience, c'est la deuxième étape, des limites que tu dois t'imposer dans ta vie pour avoir une vie équilibrée. Remets en ordre tes priorités. Apprends à dire non à certains projets, certaines demandes. Demande peut-être aussi de faire moins d'heures de travail pour peut-être faire moins d'argent, mais avoir une meilleure qualité de vie. C'est un choix qu'on peut faire aussi. Et parfois aussi, ton ou ta copilote, c'est cette personne-là qui va te dire « Arrête, ralentis, chérie! » Hein? Histoire vécue. Et mon devoir pour vous, c'est d'en parler en famille, en couple. Qu'un mari demande à sa femme « Est-ce que tu trouves que je vais trop vite? Que je ne suis pas assez présent pour notre famille? » Qu'on puisse en parler entre amis, en petits groupes durant la semaine, se demander les uns les autres « Est-ce que je vais trop vite dans la vie. » La deuxième façon de vivre le sabbat aujourd'hui, c'est de, évidemment, s'arrêter complètement. S'arrêter complètement. Oui, ralentir, c'est bien, mais à un moment donné ou un autre, il faut s'arrêter régulièrement, une fois par semaine, une journée par semaine. Et aussi, réalisons que la vie a vraiment changé depuis une centaine d'années, OK? Maintenant, on a 2 jours de fin de semaine, mais la plupart des foyers, les hommes et les femmes travaillent. Donc, ils font 40 heures, des fois, parfois même 50 heures par semaine. Mais après, le samedi, quand tu dois faire l'épicerie, les rénovations, la cuisine, les impôts, toutes tes tâches de la vie courante, je m'excuse, mais c'est pas une journée de repos. Vous êtes d'accord avec moi? T'es pas au travail, mais tu travailles quand même. C'est normal alors que tu sois épuisé si tu passes ta fin de semaine à faire d'autres genres de travail et que tu ne t'arrêtes jamais. Et certains peuvent avoir peur de pratiquer le sabbat à cause peut-être d'un souci financier ou à cause de leurs responsabilités qui sont importantes au travail, qui fait en sorte qu'ils veulent rester joignables 24 heures sur 24, ou par peur aussi de déplaire. Ça, c'est quelque chose souvent qui peut arriver. Par peur de déplaire au patron, de dire non pour travailler des heures supplémentaires à cause de la pression sociale. La réalité, c'est que le sabbat est fait pour montrer notre dépendance envers Dieu, pour réaliser que même si notre travail est important et qu'on travaille avec excellence, au bout du compte, c'est Dieu qui est en contrôle de la situation. C'est Dieu qui est en contrôle. La réalité, c'est que plus les responsabilités, les demandes, la pression sociale et la popularité de Jésus augmentaient, lui, il se retirait pour prier. Luc 5, 15 à 16. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. On a le réflexe de faire totalement l'inverse de nos jours. Quand les responsabilités augmentent, la pression augmente et tout, on se dit « Ah, à quel point j'ai besoin d'être là, à quel point je suis indispensable, à quel point je dois travailler plus, faire plus, plus, plus. » Et ça nous amène tranquillement au burn-out. Et là, deux questions peut-être que vous posez. S'arrêter, une journée, c'est bien, mais laquelle? Telle est la question. Et ma réponse, c'est « ça dépend ». Pour beaucoup, ce sera le dimanche, pour prendre le temps de se retrouver en communauté pour adorer Dieu. D'autres, étant donné que nous avons la possibilité d'avoir deux journées de fin de semaine, peut-être que tu veux consacrer le samedi au sabbat, puis aller à l'église le dimanche matin, mais faire des rénovations le dimanche après-midi. Bon, pourquoi pas? Certains travaillent de nuit, d'autres n'ont pas le même horaire que leur conjoint, ils veulent s'arrimer pour vivre leur sabbat la même journée. Il y en a d'autres aussi pour qui le dimanche, c'est leur plus grosse journée. Je sais pas. À deux réunions, la Malbaie, Saint-Paul, je vous dis que oui, c'est du travail. Gordon MacDonald, d'ailleurs, il commence son livre « Une vie intérieure ordonnée », si jamais ça vous intéresse de lire, c'est vraiment un très bon livre que je recommande. Il commence son livre avec un épisode de sa vie où un jour, il s'est complètement effondré. Quand il avait 30 ans, après un départ canon dans le ministère, après 3 ans comme jeune pasteur d'une grande église, 3 ans de tourbillon de responsabilités et d'activités où, pendant ce temps-là, il ne mettait pas en priorité sa relation avec Dieu, sa famille, etc., etc. Un jour, après son retour à la maison, sa femme lui dit des propos difficiles à entendre. Elle lui dit « Tu n'as pas passé beaucoup de temps avec les enfants dernièrement. » Et il s'est effondré en larmes pendant 4 heures de temps, il s'est mis à pleurer. 4 heures de temps. Ça a été comme un moment déclencheur. Il considère ce moment-là comme un des plus importants de toute sa vie parce que c'est à partir de là qu'il a apporté des changements dans sa vie. Et entre autres, le repos sabbatique. Il va dire ceci dans son livre, « Le dimanche, et j'ai trouvé ça beau, c'est bien dit, puis je trouve ça beau. Le dimanche, nous allons aider les autres à profiter de leur jour de sabbat. » C'est un pasteur. Mais nous allions goûter à cette paix un autre jour de la semaine. Et c'est ce que nous faisons, Julien et moi. Nous, on prend notre journée sabbatique le lundi parce qu'on veut que vous puissiez en profiter le dimanche. Et justement, on est en église, on vit la communauté, notre relation avec Dieu en communauté. Mais pour nous, ça devient pas tant reposant. Donc, on se repose aussi le dimanche, d'une autre façon. Bref, on peut pas, selon moi, définir une journée précise, mais c'est important de pratiquer le repos sabbatique une journée par semaine. Vraiment, je vous encourage à le faire et à être intentionnel. C'est pas juste « Ah, je suis en congé, donc je suis en sabbat ». Non, je vais vous expliquer, en fait, ma deuxième question, c'est celle-ci. S'arrêter une journée, c'est bien, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Ouais. C'est ça la question. Eh bien, ma réponse, c'est « ça dépend ». Dans les détails, ça dépend. Dans les détails, ça dépend, mais voici 3 principes qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Le sabbat, c'est s'arrêter pour se reposer, pour se réjouir et pour réfléchir. Premièrement, on s'arrête pour se reposer, évidemment. Et c'est et l'important, c'est pas c'est de faire en fait des choses que tu ne considères comme qui ne sont pas du travail. Comme j'ai dit, tu peux être en congé puis passer ta journée à faire la cuisine, à faire les courses, etc. Mais ça te repose pas vraiment, on s'entend. À moins que oui, ben là, on va y venir aussi. Ça dépend des gens. Si tu passes ta semaine assis à un bureau à faire du travail intellectuel, peut-être que le travail manuel pour toi, ben c'est ça qui te fait décrocher puis c'est ça qui te fait du bien pendant ton repos sabbatique. Mais la personne qui fait un travail vraiment physique, peut-être qu'elle va avoir besoin que son corps se repose, elle va avoir besoin de faire d'autres genres d'activités pour que son corps et son esprit se reposent. Fais quelque chose que tu aimes, qui te repose. Et c'est là que l'esprit vient nous aider à discerner ce qui est bon pour nous. On a des besoins qui sont différents un des autres. Et c'est fou parce que Dieu, il veut répondre à nos besoins. Mais l'essentiel pour un repos sabbatique, c'est de vivre ce repos dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de meilleur, il n'y a aucun endroit meilleur pour se reposer que la présence de Dieu. Vis cette journée en prenant conscience de Dieu dès le matin, en remerciant Dieu pour la semaine qui est accomplie, pour ce moment d'arrêt aussi que tu peux vivre. Et deuxièmement, le sabbat, c'est s'arrêter pour se réjouir. Le sabbat est une célébration, c'est un délice. Dieu, elle n'était pas fatigué de son travail. Qui Dieu, c'est Dieu. Là, il n'était pas fatigué après avoir fait la terre et l'univers. Mais il s'est reposé quand même. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, Dieu il dit qu'il voit que ce qu'il a créé était bon. Alors qu'est-ce qu'il fait le 7e jour? Il veut le savourer. Il le savoure. C'est le moment parfait pour profiter de la nature, pour remercier Dieu de sa création, pour manger un bon repas avec tes proches, pour louer Dieu en communauté, pour se réjouir aussi du travail accompli. Maintenant, de nos jours, on dirait qu'on prend pour acquis le travail qu'on fait parce qu'on est tellement dans une société de productivité que c'est fait, OK, next, c'est quoi la prochaine affaire? Puis on profite même pas, on dit même pas, waouh, voici ce que j'ai fait. Merci Seigneur pour ces 35 heures que j'ai travaillé, ces 40 heures que j'ai travaillé, pour cette chose que j'ai créée. Et finalement, arrête-toi pour réfléchir. Cette journée est un moment idéal pour que Dieu sonde nos cœurs, pour méditer sur la parole de Dieu, pour être introspectif, pour que Dieu nous montre si nous sommes sur une bonne voie ou non. Et c'est drôle, je finis avec ça. Ah, d'ailleurs, je voulais que les musiciens, vous pouvez venir me rejoindre. C'est drôle, il y a un médecin qui a fait des sondages pour trouver les gens les plus heureux du monde. Et puis, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'il a trouvé que c'était un mouvement chrétien qui est très strict, on pourrait dire presque même légaliste ou très religieux au niveau du sabbat, mais quoi qu'il en soit, voici ce que ça porte comme fruit. En fait, il a remarqué qu'ils vivent en moyenne 10 ans de plus que la moyenne américaine. Ces personnes-là, ce groupe de chrétiens qui font le sabbat une fois par semaine, vraiment, ils sont très stricts, probablement, c'est ça, peut-être éventuellement légalistes, mais bref, ils pratiquent de cette façon-là. Le samedi, c'est le sabbat. C'est un groupe chrétien qui font ça, un mouvement chrétien. Le samedi, c'est sabbat, on ne travaille pas, etc. Et ils vivent 10 ans de plus que la moyenne américaine. Quand même énorme! C'est quand même particulier! Vraiment, je veux vous exhorter à mettre en pratique ces principes pour découvrir le repos dont chaque être humain a besoin. Le repos que Jésus est venu nous offrir. Et des fois, on a peut-être envie d'aller dans le divertissement et tout ça, et c'est bien de le faire avec modération, dans écouter Netflix, etc., etc. Et nous, on le fait, on aime écouter des films. Mais ce qui va vraiment reposer ton âme, ton esprit et ton cœur, c'est un repos qui est vécu dans la présence de Dieu. De prendre conscience au moins une journée par semaine, et après tout le reste de ta semaine, tu peux le faire aussi de d'autres façons, mais de prendre vraiment une journée par semaine où tu dis « Ah, j'arrête de courir partout. J'arrête de courir partout, je te remets ma semaine, je te remets ma vie, Seigneur Jésus. Puis je veux vivre cette journée pour te glorifier, je veux vivre cette journée pour me reposer, pour me réjouir, pour profiter de la vie, Seigneur Dieu, que tu me donnes. » Et je vous dis, ça peut transformer des vies, ça peut transformer des familles, ça peut transformer des couples, de mettre ça en pratique. Jésus nous dit, venez à moi. Venez à moi. C'est une invitation que Jésus nous donne. C'est une invitation. Je peux vous enseigner autant que je pourrais enseigner un deuxième message là-dessus, etc., etc., jusqu'à ce que mort s'en suive, mais il faut que chacun d'entre nous, on aille à Jésus chercher ce repos. Si tu es fatigué, va à Jésus. Va à Jésus dès aujourd'hui et essaie de pratiquer ce repos sabbatique de la façon que tu penses que l'Esprit te dit de le faire. Mais tu dois y aller. C'est une invitation. Va à Jésus. J'aimerais prier pour ceux qui sont fatigués. Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués dans ce monde? Ouais, on est fatigué. Hein? Les statistiques nous le montrent de toute façon. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ceux pour qui leur âme est fatiguée, Seigneur. Fatiguée de chercher une réponse. Fatiguée d'essayer de combler, Seigneur, ce vide intérieur, Seigneur. Je veux te dire, on veut te dire, Seigneur, viens combler. Viens apporter le repos éternel à ceux qui te le demandent, à ceux qui le cherchent, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse réaliser que toi, ce Jésus-Christ, mort et ressuscité, Seigneur, tu es celui qui apporte le repos, qui apporte la vie, qui apporte la vie ici, mais la vie éternelle aussi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que ceux qui n'ont jamais pris cette décision de te suivre, de faire de toi le repos, Seigneur, de remettre leur âme à toi, de devenir un disciple de toi, Jésus, Seigneur, je te prie pour que dès aujourd'hui, il y en ait qui décident, Seigneur, dans leur cœur, dans leur esprit, de faire de toi le chef de leur vie. Seigneur, je veux te prier aussi pour tous ceux qui sont fatigués émotionnellement, qui portent une charge qui est lourde, émotionnellement et physiquement, Seigneur. Je te prie pour ceux qui souffrent d'insomnie, pour ceux qui ne semblent jamais s'arrêter, Seigneur, qui sont essoufflés par le poids de la vie, par le poids des responsabilités. Seigneur, je te prie qu'ils aillent jusqu'à toi, Seigneur, qui t'imaginent et qui viennent déposer leur fardeau, Seigneur, à tes pieds. Et Seigneur, tu nous donnes en échange ta liberté, ton amour, ton joug, Seigneur, pour nous aider à porter le poids de la vie, ton joug qui est doux, parce que tu es bon, tu es doux, Seigneur. Viens nous enseigner, Seigneur, aujourd'hui. Viens nous enseigner qu'on puisse aller à toi à tous les jours, mais qu'on puisse aussi réorganiser notre vie pour avoir une vie qui t'est consacrée, Seigneur. une vie qui a du sens parce que tu es en priorité, Seigneur, parce que nous vivons chaque jour pour t'honorer, pour te glorifier, pour se réjouir, pour te célébrer, Seigneur, et pour célébrer la vie que tu nous donnes. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Par ce chant, qu'on puisse vraiment, que vous puissiez aller à Jésus pour trouver le repos, que vous puissiez relâcher pendant ce chant le fardeau que vous portez. Allez jusqu'à Jésus. Et aussi, demandez à l'Esprit Saint qui vous convainc de mettre en place ce que vous devez mettre en place dans votre vie pour vivre une vie de sérénité, pour briller, pour apporter le calme dans ce monde et pour briller. Amen. Qu'on puisse passer ce moment dans la présence de Dieu.